Je vous salue tous. Les tables, les bancs sont clairsemés, c'est la chaleur. Mais en tout cas, soyez bénis d'être auprès du Seigneur ce matin. C'est avec joie, amour, empressement que nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Que chacun soit assuré de l'état de notre cœur dans le service que nous voulons accomplir pour vous. Peut-être moi, de ma part, je ne le dis pas assez, mais si je n'avais pas d'affection pour vous, si je n'avais pas d'amour pour chacun d'entre vous, je ne serais pas là. J'aurais peut-être choisi de faire la politique dans laquelle j'étais avant, mais si j'acceptais de venir servir le Seigneur, c'est parce que je vous aime sincèrement et que nous devons aller ensemble au royaume des cieux. Voilà l'objet, la raison de notre rencontre au pied du Seigneur, dimanche après dimanche, jour après jour. Et même si je ne vous vois pas tous, figurez-vous, j'ai toute une liste devant moi de votre nom par ordre alphabétique, lundi, mardi, mercredi, un tel, telle famille, et nous prions pour que le Seigneur nous encourage tous vers le chemin de la foi. Soyez-en assurés. Permettez-moi un petit sujet léger dans ce monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais parfois, il y en a quelques-unes qui sont là, intercalées dans le quotidien de notre vie. C'est un peu mon histoire. Et c'est mieux de le savoir peut-être et de comprendre les codes de langage que j'utilise parfois dans mes prédications. C'est lié à mon histoire et c'est lié aussi à mes expériences. Hier, j'étais à Béziers pour célébrer le mariage de un de mes neveux. C'est le fils à mon frère Timothée, qui est décédé il y a quelques années. Il a eu deux enfants. Et le dernier que j'ai marié hier, après la mort de son père Timothée, ma sœur qui habitait à Montpellier était allée en Centrafrique les recueillir. En ce moment, j'étais déjà en mission chrétienne dans mon propre pays. Et ces enfants, je les ai accompagnés dans la foi et je les ai baptisés tous les deux. Mais le dernier, ma sœur l'a ramené et dans l'avion, il commence à manifester un certain malaise, inexpliqué. Et quand ils ont atterri à Montpellier, son état exigeait qu'on l'amenait à l'hôpital. Et quand ils sont appelés à l'hôpital de Villeneuve, ils ont fait le diagnostic pour faire court. Il est infecté du sida, mais à stade avancé. Et c'était pour ça que mon frère Timothée est mort du sida, sa femme aussi morte du sida. Et le petit a été infecté dans l'intérieur de sa maman. Et donc il est sorti avec cette maladie qui le rongeait. Des examens médicaux ont révélé que le foie est abîmé, totalement abîmé, qui ne réagit plus. Les reins également ne fonctionnaient plus, donc il était à l'article de la mort. Il aurait été mieux de le laisser en Centrafrique que de l'amener en France pour qu'après un décès, engager des frais pour essayer de rapatrier le corps. Mais sauf que Dieu fait les choses de manière inattendue. Et écoutez bien. Ce garçon qui s'appelle Melvin, il est tombé dans les bras d'une infirmière. Et cette infirmière est une chrétienne qui, au courant de la situation du jeune homme, vient tous les matins prier avec lui, s'occuper de lui. Les médecins ne lui ont pas annoncé au moins une semaine, vu son état. Voilà qu'une semaine est passée. Deux semaines est passée. Trois semaines sont passées. Et l'enfant quitte le lit, commence à manger, ce qu'il ne faisait pas avant. Il commence à courir, ce qu'il ne faisait pas avant. Et petit à petit, il s'est rétabli. Le taux de nocivité de la maladie en lui commence à baisser, et finalement, ça atteint niveau zéro. Et quand on a fait les examens médicaux finaux, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus rien. Ses reins sont devenus neufs, son foie est devenu impeccable, et qu'il fallait chercher maintenant à lui faire apprendre un métier pour qu'il gagne sa vie. BTS de boucherie, et il est devenu boucher en plat cabane à Montpellier. Comme il travaillait très bien, son chef l'a tellement aimé qu'il lui a acheté une boucherie, donc il est devenu son propre patron. Et celui qui s'est marié hier. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de manger le repas, tellement qu'après la prédication, j'ai eu des visites, des contacts, dont je communiquerai le numéro au pasteur de Montpellier. Ils vont s'en occuper. Mais il y avait une situation qui m'a ému hier. Pendant que je prêchais, je voyais une femme de l'autre côté qui pleurait. Elle était en larmes, ben vraiment en larmes. Elle retenait son sanglot pour ne pas perturber la prédication. Et vers la fin, elle est venue vers moi. Elle est tombée dans les bras. Je lui ai dit que, qu'est-ce que vous avez, madame ? Elle m'a dit, est-ce que vous savez ? Je lui ai dit, qu'est-ce que je suis censé savoir, madame ? Il m'a dit, ce garçon, il est en train de montrer mon neveu. C'était dans mes bras qu'il est tombé quand il était venu de l'Afrique. C'était moi, cette fameuse infirmière qui s'occupait de lui. Et quand je le vois se marier, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà ce que Dieu fait. Souvent, quand on fait des témoignages de ce genre, quand on ne l'a pas vécu, on a de la peine à comprendre. Mais Dieu fait des choses. Il aura l'occasion peut-être un jour. Et je vous le montrerai. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es tellement merveilleux que tu fais des choses qui nous dépassent. Parfois, nous ne comprenons pas, mais nous te faisons confiance. Ouvre notre cœur afin que nous comprenions ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Le chemin de Jésus n'est pas un chemin aisé, sauf que c'est le chemin le plus sûr. OK ? Si nous voulons avoir un chemin aisé, nous risquons d'être à côté. Le chemin de Jésus, c'est un chemin assez difficile, rocailleux, mais c'est le plus sûr qui nous mène au bout. Je vous invite vraiment à être attaché au Seigneur. Alors nous allons lire trois textes dans la prolongation de la thématique que nous avons commencée avec Clémence et qui se poursuivra sans doute dans les temps qui viennent avec beaucoup plus de détails. Et je veux vous proposer trois lectures et puis nous développerons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, nous lisons tous ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dans certaines versions, ce qui concerne les choses de l'esprit, esprit avec grand E, je ne veux pas, frère, si vous voulez ajouter sœur, que vous soyez dans l'ignorance. C'est pour dire qu'il y a des choses de l'esprit pour lesquelles on peut être dans l'ignorance. On ne peut pas être au clair pour ne l'avoir pas vécu ou pour avoir été enseigné avec un pourcentage d'erreur ou simplement pour avoir refusé d'aborder la question. Ça arrive dans la foi chrétienne. Mais l'apôtre Paul dit ici, je ne veux pas. C'est un verbe qui est très fort. Que vous soyez dans l'ignorance de ces choses. Ignorer, ça signifie ne pas savoir. Et quand on ne sait pas, on est en danger. Le savez-vous ? Quand on ne sait pas quelque chose, on est en danger. Quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui prend le volant, il est dangereux pour lui-même, il est dangereux pour les autres. Texte suivant. C'est dans l'Évangile de Jean, deux textes. On aurait aimé lire la totalité, mais le temps parfois nous oblige à lire quelques portions seulement. Je vous ai parlé de la part de Jésus, verset 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça, c'est Jésus qui parle. Et le troisième texte, plus loin, dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 12, j'y lirai jusqu'au verset 15, pour avoir le chemin complet de l'affirmation, c'est Jésus encore qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à ses disciples et à nous, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aurait entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, qui est une des personnes de Dieu dans sa dispensation, a été et continue à l'être plus qu'un sujet controversé dans le milieu évangélique et même dans le milieu catholique, où la manifestation s'imbrique dans une croyance animiste et nous retombons dans une sorte de syncrétisme. Ça, c'est souvent dans le milieu catholique. C'est un sujet très discuté, même source de division. De grâce, écoutez bien d'abord, avant de me lapider ou avant de me dire quelque chose. Ma charge de prédicateur est énorme. J'ai la pression de Dieu et j'ai la pression qui relève de votre approbation ou pas. Mais pour que le message de Dieu atteigne son but, il faut deux conditions fondamentales. La première, c'est que je suis assigné à dire exactement ce que le Seigneur me demande de dire. Ça, c'est le premier point. Sinon, le message n'est pas bon. Deuxième, vous devez recevoir la pensée du Seigneur dans les dispositions d'humilité pour que ce message venant de Dieu et touchant votre cœur humble, ça produit un résultat. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable Église de Jésus n'est pas une organisation humaine dirigée par une hiérarchie. Il n'y en a pas. C'est pour ça que Luther et Calvin se sont levés contre la hiérarchie. On va parler d'un sacerdoce universel, où chacun reçoit de la part de Dieu, on fait une mise en commun. L'Église de Christ est toujours dirigée de manière collégiale, avec les dons que chacun a. L'Église de Jésus n'est pas une agence sociale. Vouloir faire que du social par l'Église, le décentre de sa mission principale, celle d'annoncer l'Évangile qui sauve. Ce n'est pas le social qui sauve. Le social vient comme un bras armé de témoignage. Ce n'est pas négligé non plus, mais elle n'est pas une agence sociale pour répondre aux besoins et désirs sociaux du monde. Ça, c'est le rôle des politiques. Elle n'est pas simplement un endroit pour se faire uniquement baptiser et ensuite disparaître. Vous suivez mon regard là. Combien de personnes sont venues lors du Covid, poussées par la peur, ayant suivi les enseignements, et une fois qu'on les a trempés dans l'eau, où sont-ils? L'Église n'est pas un endroit non plus pour se faire enterrer après avoir ignoré Dieu durant toute notre vie. Et encore moins un endroit où on doit se marier par superstition. Ce n'est pas non plus un club social et religieux au sein duquel se réunissent les genres humains partageant la même foi, les mêmes principes et croyances. Toutes ces descriptions dépeignent cette l'Église, mais pas exactement l'Église de Jésus, le Christ. Alors vous allez commencer à vous poser dans votre cœur, mais si tout ce que je dis n'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que l'Église ? L'Église que Jésus-Christ a établie et qui est définie et qui est décrite dans le Nouveau Testament est un organisme vivant, composé des membres vivants, c'est-à-dire des personnes humaines nées de nouveau au contact de la parole de Dieu qui est semence de vie. Qui est semence de vie. La naissance nouvelle ne vient pas autrement que par la parole de Dieu, mes bien-aimés. Rien ne peut nous faire naître de nouveau. Et ça, ça a un double mérite. La naissance nouvelle nous soustrait du royaume de Satan pour nous planter dans le royaume de Dieu. Tant qu'il n'y a pas une naissance nouvelle, il n'y a pas le royaume de Dieu. Détrompez-vous. On peut être religieux ou paroissien, mais on n'est pas né de nouveau. La naissance nouvelle nous prend et nous intègre à Christ. Le pasteur vous baptise pour faire de vous membre paroissien d'une communauté, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous intègre au corps de Christ. Comme un bras, comme un pied, comme des yeux, comme un prophète. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est pourquoi l'œuvre de Jésus sera une œuvre inutile sans le Saint-Esprit. L'Église de Jésus, c'est un corps social, mais un corps spirituel. Bien que les membres soient composés du genre humain, mais l'Église de Jésus porte sa nature et porte son esprit. Jésus est à la fois homme et esprit, et donc l'Église de Jésus est composée du genre humain, physique, mais guidée par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et l'Église devient une entité spirituelle. C'est-à-dire chacun d'entre nous. Alors, l'Église de Corinthe, comme nombre d'églises d'aujourd'hui, est affectée par des contrefaçons qu'on tenterait d'appeler aujourd'hui l'apostasie. Et permettez-moi d'ajouter un mot à ce mot. Le mot apostasie, c'est un mot qui va s'appliquer pas au monde, parce que le monde est sous la domination du diable. L'apostasie, c'est un mot qui est employable à l'égard de l'Église corps de Christ. Elle explique la défection de ceux qui avaient déjà une alliance avec Dieu et qui, au cours de leur vie, ont renié cette alliance. Ils ne vivent plus pour le Seigneur. Ils n'ont pas le même amour pour Dieu. Ils trouvent à critiquer l'Église de Jésus-Christ et de se mettre de côté. Et le feu de la foi qui est en eux commence à baisser petit à petit. Et les choses de Dieu n'ont aucun intérêt pour eux. Voilà l'apostasie. Puisque nous sommes sur le mot, permettez-moi d'aller beaucoup plus loin. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit, l'apôtre Paul, « Que personne ne vous séduise par les temps qui courent. Mais il faut que l'apostasie soit arrivée afin que nous voyons manifester le fils de la perdition, l'impie, celui qui se réclame l'adoration, même s'installer dans le temple. Donc c'est pour dire que l'apostasie est le fait que nous abdiquons devant la vérité de Christ et une autre contrefaçon prend la place de cette vérité. D'abord dans un premier temps à 3% et dans un deuxième temps à 10%, à 40% et petit à petit, le royaume de Dieu dans notre cœur abdique pour laisser la place aux ténèbres qui prend place. La forme extérieure reste la même, mais ce qui en fait la force à l'intérieur de nous-mêmes n'y est plus. Et c'est pour ça que le diable viendra un jour s'installer dans l'Église, à ma place, peut-être, et peut conduire les gens sans que vous le sachiez, vous détournant de Christ. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir des lumières à gauche et à droite, le balise, pour ne pas sortir de l'ornière. L'apostasie. Le sens étymologique du mot signifie récession. Le sens étymologique du mot signifie rébellion. Le sens étymologique du mot apostasie signifie sédition, qui a été la motivation du diable pour lequel Dieu l'a précipité sur la terre et dont l'homme fait l'objet, parce que nous faisons l'objet de l'amour de Dieu. Et comme Dieu, il est trop fort, le diable ne peut pas l'atteindre, alors il s'acharne contre nous. Et c'est pour ça que Jésus dit, il n'est pas bon que vous restiez. Il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur. Jésus, quand il était avec nous, il était à nos côtés. Vous me suivez? Jésus, quand il était avec nous, il était à nos côtés. Il nous accompagne, il accompagne les disciples. Quand il a Bethphagé, il n'est pas à Jérusalem. Quand il a Jérusalem, il n'est pas à Nazareth. Il est à un seul endroit à la fois. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je serai allé, je vous enverrai quoi? Le Consolateur. Il sera avec vous, comme je l'ai été avec vous, mais il sera en vous. Parce que c'est de l'intérieur que vient le combat. Comme il est en vous, je vous parlerai de l'intérieur de vous-même, avec votre langage. Et c'est la manière de vous aider à avancer. Il y a raison de lésiner à recevoir une telle personne en nous. Bien au contraire, on doit s'empresser de le chercher. Voilà pourquoi Jésus disait, vous, hommes, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le père qui va donner un caillou à son enfant si celui-ci lui demande du pain à manger? Quel est ce père avisé qui va donner un scorpion à son enfant si celui-ci lui demande des œufs? Aussi méchante que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi moi, Dieu, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit si vous me demandez? C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas une phrase beaucoup plus forte que celle-là. Demandons-lui. Il va nous aider à avancer. Jusqu'à ce que nous en soyons débordés. Ce n'est pas le fait que les autres ont fait mauvais usage de ce qu'est l'Esprit du Seigneur que nous, par rejet, nous allons rejeter le bébé avec l'eau du bain. Soyons sages et le Seigneur nous aidera. Et nous allons avancer. Nous allons prospérer. Ce que je vous dis, c'est dans toutes les églises. Même dans les églises que vous pensez être des églises de réveil, ils sont en train de traverser une zone de turbulence où des mauvaises herbes poussent de partout. Mais ce n'est pas étonnant parce que ça annonce les signes précurseurs de l'avènement de Jésus. Parce qu'il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est un signe indicateur. Mais malheur à celui par lequel ce scandale arrivera au sein de l'Église. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre, va commencer à traiter la mauvaise compréhension des Corinthiens au sujet des choses de l'esprit. Et il va leur dire que je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Et il va le traiter de manière scripturaire avec la vérité pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Alors, trois questions à laquelle je vais répondre rapidement. Pourquoi Paul nous exhorte-t-il à ne point vivre dans l'ignorance quant aux choses qui concernent l'esprit? Deuxième question, dans quel but l'Éternel Dieu s'emploie à nous immerger dans son esprit, le peuple qui lui appartient, racheté par le Christ, dont nous faisons partie? Et la troisième est une affirmation. En tant que consolateur, précisément, en tant qu'un autre consolateur, de la même nature que Jésus, c'est-à-dire un guide, un enseignant, pourquoi nous devons le connaître? Alors la première, c'est quand le Consolateur sera venu. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous éprouvons vraiment le besoin de cette présence divine qui est celle du Consolateur ou de l'autre Consolateur? Ici, le Saint-Esprit présenté par le Christ apparaît dans deux offices principaux. Le premier, c'est celui d'un avocat. Et vous savez que l'avocat, il défend l'indéfendable, parfois. Et nous n'avons pas été des gens aimables, mais Jésus nous a aimés, il nous a défendus devant le Père, n'est-ce pas? Et comme il n'est plus de son vivant, il faut que quelqu'un d'autre prenne la place. D'où l'expression « notre consolateur », comme Jésus, qui plaide notre cause devant Dieu. Mais la chose la plus importante, l'image elle est faible, mais ça nous permet de comprendre, c'est que le Saint-Esprit joue le rôle de l'infirmier. C'est-à-dire celui qui connaît l'ordonnance du médecin et qui vérifie minute après minute, jour après jour, si vous avez pris le médicament, oui ou non. Et si la parole de Dieu est déjà un médicament, selon Proverbe chapitre 4, verset 22, mais il va falloir que quelqu'un soit là pour vous administrer quotidiennement, à chaque instant, les médicaments qu'il faut pour être soigné. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Vous voyez, combien nous perdons s'il n'est pas là? Voilà tout l'enjeu. Peut-être l'enjeu n'est pas celui... Bon, ignorons-le, c'est pas grave. Oui, c'est possible, c'est notre liberté. Mais est-ce que nous évaluons ce que nous perdons sans sa présence? Voilà la question. C'est pourquoi arrêtons de vivre en orphelin. Quand le Saint-Esprit est là, on n'est plus orphelin. Puisqu'il est là. C'est ça le mot consolateur. Le mot consolateur, c'est consoler. Seul, consoler, venir avec celui qui est seul. C'est-à-dire, vous êtes en compagnie. Voilà son rôle. C'est merveilleux, ça. La solitude n'est pas le fait qu'il y a du monde autour de nous. On peut vivre parmi les gens, mais on peut être seul au niveau intérieur. Même dans un ménage. J'en parlais hier, d'ailleurs. Je n'ai pas fini ma phrase. Une femme, il se lève là-bas, il crie « Alléluia !» Et son mari l'a regardé de travers. Après, j'ai eu le mari, on a discuté. La deuxième chose, c'est que, pour quelles raisons Dieu a envoyé le Saint-Esprit? C'est vrai que vous en connaissez déjà les premières raisons, mais une autre raison beaucoup plus pédagogique est celle-ci. C'est que Dieu a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il a exaucé la prière de Jésus. Simplement ça. Et Jésus dira, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et parce qu'il ne le voit pas, et parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, je l'espère. Donc le Saint-Esprit doit être connu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils se connaissent. Deux personnes ne peuvent pas se marier sans qu'ils se connaissent suffisamment. Sinon, ce serait de la folie. Bon, on dit qu'il y a des premiers mariages, hein, le mariage du premier coup d'œil. C'est ça, non? Je ne sais pas l'expression. Voilà. Il y a des gens comme ça, quand tu le vois, ça bouillonne et puis c'est parti. Mais pour le mariage, il faut connaître quelqu'un. C'est plus que vrai pour le Saint-Esprit. Il faut le connaître. Sinon, vous ne pouvez pas savoir comment il vous parle, comment il vous interpelle. Il va utiliser le même langage, votre instruction, votre bagage culturel, votre expérience pour vous parler. Il y avait un Écossais qui était allé en Centrafrique, il prêchait dans le livre d'Ésaïe, où la Bible a dit que lorsque vous venez à Jésus et vous plaidez, votre péché serait plus blanc que la neige. Alors l'Écossais, il a prêché, le gars, il a traduit. Et ma mère, qui ne connaît pas le français, mais qui entend, il me dit, mais c'est quoi la neige? Alors il fallait trouver une image. Mais comme on est un pays qui produit du coton, coton, blanc comme du coton, voilà. Les nuages là en haut, le péché serait pur comme ça. Et donc Dieu va utiliser le langage de notre expérience, de notre connaissance, de notre acquis pour nous parler. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit que Dieu lui a dit qu'il vous a dit ça, je dis arrêtez, je suis le premier concerné. Si le Seigneur veut me parler, il s'adresse à moi d'abord. Si ce que l'autre vous dit vient confirmer ce que Dieu vous dit, c'est bon. Il y a des gens comme ça qui disent que Dieu m'a dit que tu dois chercher cette femme, Dieu m'a dit que c'est cet homme-là. Comme à Montpellier, quelqu'un m'avait invité un jour, on est allé dans une église, et puis il y a un qui s'est levé pour dire que, tiens, pasteur, je crois que le Seigneur m'a déjà donné la moitié de mon cœur que je cherche depuis longtemps. Et le pasteur dit que c'est qui? Il a dit que mais cette femme qui est derrière le piano là, hein, qui est habillée en rouge là, celle-là vraiment c'est celle que Dieu m'a donnée. Le pasteur lui dit attention, ça c'est mon épouse. Hein. Ça c'est mon épouse. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Ça c'est Dieu qui a parlé ça. L'autre question, c'est l'extrême importance du rôle du Saint-Esprit dans les derniers temps. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il entend Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Que de Jésus. Et comme Jésus est le reflet de Dieu, en parlant de Jésus, il parle de Dieu en même temps. Voilà pourquoi on appelle l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de bonté, l'Esprit de sainteté. Voilà son nom. Et il y en a toute une liste. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera du Christ. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous met un tampon dessus. Il met le tampon de Dieu, le sceau. S-C-E-A-U, scellé. Dieu vous scelle pour qu'un autre ne vous scelle pas à nouveau. Parce que le diable, il va vous sceller de son numéro, que vous connaissez très bien sa marque là, 666. Et vous savez que d'où vient le mot 666? Ce n'est pas les codes barres, les gens, ils racontent n'importe quoi, 666. Si vous cherchez bien dans la parole de Dieu, le chiffre 666 existe en dehors de l'Apocalypse. Vous prenez un roi, chapitre 10, qui parle de Salomon. Parce que le peuple de Dieu a trahi l'alliance de Dieu depuis. Dans Exode chapitre 19, versets 6 à 7, Dieu a dit que si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi, parmi tout le peuple de la terre, mon peuple à moi, tout seul. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Et si vous écoutez ma voix, vous aurez des bénédictions. Mais si vous n'écoutez pas ma voix, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous serez en esclavage. Et le peuple de Dieu, fort de cette alliance, au lieu d'obéir, il n'a pas obéi. Il a trahi les Juifs. Ils ont trahi. Et la manifestation de cette trahison, c'est par Salomon. Salomon a épousé 700 femmes avec 300 concubines. Vous me voyez là? C'est la fête des pères. Mais lui, il doit avoir une force pour avoir au moins 1000 femmes dans son harem. Mais pire encore, il a épousé des femmes étrangères. Et donc chaque femme qui venait en Israël, elle venait avec leur dieu. Et il s'est retrouvé avec des multiplicités de dieux et il a fait d'Israël un pays polythéiste. Alors, il y a de l'argent qui venait. Et les 666, vous le retrouvez dans 1 Roi chapitre 10, verset 14 et verset 23. Le nombre de cycles d'argent qu'il reçoit, qui est la matérialisation de l'alliance avec le monde. Et donc, le chiffre 666, c'est la marque de la bête qui est le grand Satan qui gouverne le monde. Et celui qui a cette marque, il n'appartient plus à Dieu, il appartient à l'autre là-bas. C'est pour ça que par la parole du Seigneur, Dieu, par son esprit, il nous scelle pour dire que vous appartenez à Christ. Voilà l'objet. Alors, que fait-il en tant que personne de Dieu? Et j'en termine. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est lui que le Père a envoyé pour magnifier le Christ. C'est lui qui inspire la parole de Dieu, qui les éclaire pour nous, parce que la parole est écrite par le Saint-Esprit, et nous devons l'invoquer pour comprendre la parole du Seigneur, pour que nos yeux s'ouvrent. C'est à lui qu'appartient l'épée pour la bataille. Comment un chrétien peut être un chrétien conquérant, un chrétien combattant, sans le Saint-Esprit, qui est l'épée? Son but, c'est de glorifier Christ, qui nous permettra de vaincre l'adversaire. Il dévoile les tactiques du diable et ouvre nos yeux pour nous prévenir. Il y a de telles choses qui contredisent la parole de Dieu que le Saint-Esprit met le doigt dessus. Voilà son rôle, pour que nous puissions garder la fidélité avec le Seigneur. Alors je finis, ne vous inquiétez pas, je termine là. Alors la dernière question. Que fait le Saint-Esprit? Qui est-il? En réalité, nous avons tendance à dire une personne, c'est une personne que je touche physiquement. Mais non, il y a des personnes qu'on ne touche pas. D'abord, sur le plan commercial, vous allez voir que personne morale, c'est quoi? Vous touchez une personne morale, et pourtant c'est une personne. Il a une réalité administrative. Les entreprises, c'est une personne morale. L'Église, en tant qu'association, est une personne morale. Donc, quand on dit personne, c'est une réalité spirituelle. Même on ne le voit pas, il est là. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est plus que présent, même si on ne le voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Alors, comme c'est une personne, qu'est-ce qu'il fait? La Bible attribue au Saint-Esprit les différents caractères et qualités qui n'appartiennent qu'à une personne. Et je le cite pêle-mêle. Il pense et il connaît. Il a de la sagesse. Le Saint-Esprit aime. Il exprime une volonté. Quand Paul devait aller prêcher l'évangile en Asie, le Saint-Esprit s'est opposé à lui. Vous ne pouvez pas le toucher, mais le Saint-Esprit s'oppose à lui. Le Saint-Esprit parle. Il prie. Il intercède. Il dirige. Il conduit. Il défend. Il commande. Il peut s'opposer même à nous. Il y a des situations pour lesquelles nous prions, nous n'avons pas de réponse, nous disons, oh, Seigneur, nous te crions, tu ne nous écoutes pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui s'oppose. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut savoir être gentil avec lui. Combien de prières vous faites où vous n'obtenez pas de réponse? Ça m'est arrivé, j'ai cherché les causes et j'en ai trouvé. Le Saint-Esprit communique une vocation. Il enseigne. Il rend témoignage. Il est appelé consolateur dans le deux rôles que je vous ai dit, avocat et infirmier. La Bible montre qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit. On pourrait lui résister. Et on peut aller beaucoup plus loin. Il y en a certains qui vont l'insulter. Et Jésus, à ce niveau, Jésus va sortir pour le défendre. Il dit que vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mon Père, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Parce que vous avez estimé que son métier, c'est celui de pardonner. Pas de problème. Mais le Saint-Esprit, si vous péchez contre lui, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Il a un nom qui est en lien avec le Père. Et j'en termine. Alors cet esprit habite en nous, dans nos cœurs. Nous sommes son temple par lequel sa gloire doit se manifester au monde. C'est lui qui nous allume. Si la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, c'est le rôle du Saint-Esprit. Si nous sommes lumière du monde, c'est le rôle du Saint-Esprit. Notre vie, nos prières, nos services, est-ce que tout cela glorifie Dieu? Dieu maintient dans nos cœurs le désir de nous laisser conduire en toutes circonstances par ce divin consolateur et que nos vies soient empreintes de la communion avec le Père. On appelle cela la vie du sanctuaire. Et c'est là qu'ensuite couleront les fleuves d'eau vive qui glorifient le Seigneur. Quand Jésus dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le fleuve, c'est l'Esprit. Mais avec une grosse vague. Que voulons-nous? Un fleuve ou un petit cours d'eau, un ruisseau qui tombe par filet, surtout par les temps qui courent ou les cours d'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera le dimanche prochain à Luzier, mais je vois que les cours d'eau ont tellement baissé à cause de la sécheresse. Oui, nous avons besoin que le fleuve d'eau vive coule de notre sein. Élargissons les calibres des tuyaux de notre cœur devant Dieu. Branchons-nous à la source pour que des vagues viennent. Il fait du bien à notre vie, fait du bien à notre entourage. Il nous protège des œuvres de l'ennemi. Il nous met dans le sein de Dieu. Voilà. Quand on est dans le Saint-Esprit, on est caché à l'intérieur de Dieu. Le méchant loup ne nous prendra pas, sauf si nous sortons de la maison, le méchant loup. Il va prendre une voix mielleuse pour dire que tiens, je suis ta maman, tu peux sortir prendre un peu de gâteau. Il va utiliser toutes les voies. Mais si vous n'êtes pas vigilant et vous sortez, ah, c'est fini. Ce n'est pas fini parce que Dieu, il est toujours là. Il nous rattrape toujours. OK? Voilà. L'amour du Seigneur est là. Dieu nous fait expérimenter une expérience malheureuse, mais il nous rattrape par la suite. Dieu ne veut perdre personne. Voilà. C'est quand nous nous entêtons dans notre obstination que ça devient dangereux. On peut commettre des maladresses. Ça arrive. Mais l'amour de Dieu est suffisamment puissant. L'œuvre de Dieu est suffisamment puissante pour nous attraper. Soyez-en assurés. Nous avons été déjà plus pécheurs avant que Dieu nous connaisse. Alors, une fois que nous l'avons connu, nos péchés sont devenus moindres maintenant. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il va nous rejeter. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez cette parole, vraiment de tout mon cœur. Nous allons avancer. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant. Les anciens vont aimer. J'ai confiance en Jésus. Après, nous allons partager le pain. Ah, Christine a disparu là-bas. Attendez un instant, elle arrive. Je vais prier en attendant que Christine prenne le piano. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Et exprime cette pensée dans le langage que chacun d'entre nous est capable de comprendre et de pouvoir avancer avec toi. Que le souffle de ta grâce pénètre nos vies, nous nettoie, nous purifie, arrache les mauvaises herbes qui sont tapies au fond de notre cœur. Il nous donne d'avoir les yeux ouverts pour contempler la clarté de ta puissance et de ta gloire. Et que l'esprit de grâce et l'esprit de paix que tu nous as donné puisse nous accompagner et qu'il puisse habiter en nous, parce que nous sommes le temple de l'esprit. Bénis les nouvelles personnes qui viennent au milieu de nous, Seigneur. Exprime ta grâce, entourée de ton amour, au travers de ta parole. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Ils n'ont pas besoin que l'on impose les mains, non. Ta parole suffit. Ta parole qui communique la puissance donne la vie et la guérison. Merci Seigneur. Amen.